Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse, chapitre 41. Et si j'ai prié ainsi, ce n'est pas anodin, parce que je suis au courant de ce qui va être annoncé. Vous en doutez? Vous l'espérez, du moins. On est d'accord. Genèse, chapitre 49, pardon. J'ai dit 41, mais c'est 49. Et je voudrais que cet après-midi, nous puissions comprendre que quelqu'un dans la Bible a été béni d'une façon particulière, mais que c'est à nous, cet après-midi, qu'appartient aussi le choix d'être béni de la même façon. Et ce passage que nous allons lire se trouve dans un contexte particulier où Jacob est sur le point de mourir et il appelle tous ses fils. Et vous savez qu'il avait de nombreux enfants, il avait 12 enfants. 12 enfants, et donc il les appelle un par un pour les bénir en leur donnant à chacun une prophétie sur son futur ou le futur de leurs enfants, à ses fils. Et ce qui va nous intéresser en particulier, c'est la prophétie qu'il va donner sur Joseph. Ça se trouve au verset 22 du chapitre 49. C'est les bénédictions. Donc il donne à ses fils et il bénit Joseph de cette manière. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Est-ce que vous auriez aimé que quelqu'un vous bénisse de cette manière? Non? Personne. Bon, tant pis. Il n'y a que moi. Si, il y en a quand même quelques-uns. Et on comprend, même si ça nous paraît quelque part caché, il y a une image qui est particulière qui m'a bouleversé quand je l'ai lue. Une image qui est révélée dans ce passage. Et quand on étudie la vie de Joseph, je me suis amusé à relire toute la Genèse concernant Joseph, tous les chapitres qui concernent la vie de Joseph, et voir les épreuves qu'il a vécues, c'est quand même quelque chose de particulier. Et quand on lit ce qui est écrit là, en fait, on comprend comment Joseph a pu tenir ferme. On comprend de quelle manière il a pu rester vainqueur de toutes ces épreuves, et il a pu faire en sorte que l'Éternel reste avec lui. Et c'est ça le secret. Et l'image qui est là, qui m'a frappé, c'est que Joseph est comparé à le rejeton d'un arbre fertile. On comprend bien que l'arbre fertile, c'est Jacob, étant donné qu'il a eu 12 enfants, et voire plus avec les filles, si on compte les filles en plus. Mais il y a cet aspect que Joseph, ce n'est que le rejeton. Et le rejeton, ça nous parle de quelque chose d'insignifiant, quelque chose de petit. Quelque chose de rien du tout. Le rejeton, ça me fait penser à l'image la petite pousse d'un arbre, vous savez, qui est en train de sortir de terre, sortir des racines de l'arbre, justement. Et c'est vraiment quelque chose qui, apparemment, ne contient rien de puissant. Ça ne frappe pas le regard. Et il y a une chose encore qui est marquée, c'est qu'il est près d'une source. Le rejetant près d'une source. La source, ça nous parle de la présence de Dieu. Et enfin, on va étudier ça en détail après. Mais il y a une autre chose qui est là. Mais je voudrais vraiment que vous ayez cette image, pendant tout ce message, que vous ayez cette image dans la tête, c'est-à-dire qu'il y a un rejetant près d'une source et que face à lui, il y a une muraille. Et quand il est question de muraille, on est d'accord que ce n'est pas juste deux rangs de pierres qui sont là. Une muraille, à l'époque, ça nous parlait des murailles qui entouraient les villes. Donc c'était quelque chose d'assez grand. Hein. Et imaginez une petite pousse d'un arbre face à une muraille. Qu'est-ce que c'est? Le rapport de force, il est comment? C'est C'est insignifiant. Le rejeton est insignifiant face à la muraille. Et la promesse que le Seigneur nous fait et la bénédiction que Jacob a pu vivre, c'est que le seul moyen de traverser, de passer au-delà de la muraille, c'est que le rejeton y grandisse. Et la clé de la vie de Jacob se trouve là-dedans. Et nous allons l'étudier ensemble. Pourquoi Jacob a été béni, Joseph a été béni. Son papa, il a compris que son arc, au verset 24, son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Et quand j'étudie ça, je réalise que Jacob, il n'a pas passé son temps à essayer de viser la muraille. Lui, petit rejeton qu'il était, il n'a pas passé son temps à essayer de se battre contre la muraille. Il n'a pas passé son temps à essayer de se battre contre les personnes qui lançaient des flèches sur lui, que ce soit ses frères, que ce soit la femme de Potiphar ou Potiphar lui-même, ou les Ismaélites, ou le Pharaon, ou qui que ce soit d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Son arc est demeuré ferme, mais non pas pour faire du mal aux personnes. Son arc est demeuré ferme pour toujours viser le ciel, toujours viser Dieu. Et ce qui a sauvé Jacob, ce qui a fait que Jacob a pu aller jusqu'au bout et vivre une expérience... Joseph, vous avez compris, Joseph a pu aller jusqu'au bout et être une bénédiction pour son peuple, c'est qu'il a toujours voulu avoir la présence de Dieu. Il est toujours resté près du courant d'eau. Il a toujours visé Dieu. Et la chose qu'il visait, c'était d'avoir Dieu avec lui. Dieu avec lui. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant Jacob. Le puissant Jacob, on a bien compris que c'était Dieu, l'Éternel qui veillait sur sa vie. Et j'ai pris juste quelques versets, et ce qui serait intéressant pour vous, c'est de relire aussi tous ces passages de la vie de Jacob, de Joseph. Je vais y arriver. Et vous allez voir la richesse qu'il y a à découvrir, à étudier sa vie, mais cet après-midi, on prendrait trop de temps si on faisait en lisant chaque passage. Donc j'ai pris juste quelques versets qui nous parlent de certaines vérités qui concernent Jacob, de quelle manière son arc est resté ferme, de quelle manière il a toujours visé le ciel, visé la présence de Dieu dans sa vie, de quelle manière il s'en est sorti. La première chose qui fait que Joseph a été béni, eh bien, c'est pas parce qu'il était beau de taille et beau de figure, comme c'est précisé. On peut être beau de taille et de figure, mais c'est pas pour ça qu'on va être béni. C'est pas parce qu'il faisait des songes que Dieu lui parlait au travers des songes. On est d'accord. Même si c'est une bonne chose que Dieu nous parle au travers des songes ou d'autres moyens, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas parce qu'il était le préféré de son père qu'il a été béni. Mais c'est parce qu'il a... La première chose, c'est qu'il a eu de la crainte de Dieu. Genèse 39, verset 9. Une simple question que Joseph pose, et il la pose à pas n'importe qui. Genèse 39, 9. La deuxième partie, hein, il la pose à la femme de Potiphar. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Voilà la préoccupation de Jacob, de Joseph, quand il est confronté à une tentation. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je devant Dieu ? Voilà ce qui nous indique que Joseph, il a la crainte de Dieu. Parce que quand il est confronté à quelque chose de particulier, et c'est comme si toutes les épreuves qu'il va rencontrer, c'est ce qu'a dit son père Jacob, c'est comme si des hommes le poursuivaient en lui tirant des flèches. Et vous savez qu'au temps où il y avait la guerre dans cette époque-là, quand il y avait les murailles, les flèches, elles venaient de la muraille. Les personnes qui tiraient les flèches, ils étaient sur la muraille et ils essayaient de viser ceux qui étaient en contrebas. Et Joseph, toute sa vie, il a reçu des flèches. Des personnes lui ont envoyé des flèches. Première flèche, voire deuxième flèche, parce qu'avant, il y a eu ses frères qui l'ont quand même vendu, qui l'ont comploté contre lui. Ils ont failli le tuer. Et puis finalement, ils s'en sont débarrassés. Ils l'ont vendu comme esclave. Donc c'était quand même une flèche assez importante. Vous êtes d'accord ? Et la deuxième flèche qui arrive, mais ce que je vois avant que cette flèche arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui est très simple. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui, mais malgré ça, il y a une flèche qui est venue encore. Et cette flèche, c'est la femme de Potiphar. Couche avec moi, Il n'y a plus personne dans la maison. Allez, tu as droit à un petit écart. Est-ce que Joseph, il n'aurait pas pu se dire quelque part, « Oh, ben, après tout ce que j'ai subi, mes frères, ils m'ont vendu, ils se sont moqués de moi, ils avaient la haine contre moi, toute l'amitié que j'aurais aimé trouver parmi des frères dans une famille, eh ben, je ne l'ai pas trouvé, j'ai jamais trouvé ça. Alors, ben, je vais profiter de l'instant présent. » Et il y en a qui réfléchissent comme ça encore aujourd'hui. Mais Joseph, il avait la crainte de Dieu. Joseph, il avait la crainte de Dieu et il savait que même s'il n'y avait personne dans la maison, il y avait Dieu qui le regardait. Et que c'est ça la chose la plus importante à réaliser. Et la crainte de Dieu, ce n'est rien d'autre que de vivre en réalisant que Dieu est présent partout. Et que tout ce que nous faisons, que ce soit à l'église ou que ce soit à la maison dans le secret, Dieu le voit. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et ça fait un mal à beaucoup de monde. S'il avait fait, ça aurait fait un mal à beaucoup de monde. Mais comment pécherais-je contre l'Éternel? La première chose qui fait que l'Éternel était aussi avec Joseph, c'est qu'il voulait absolument garder cette présence de l'Éternel. Il voulait garder. Et comment la garder si ce n'est en ayant la crainte de Dieu? Et pendant que la femme de Potiphar essaye de le séduire, essaye de faire tous ses artifices pour l'attirer dans son lit, Joseph, il refusa catégoriquement et même à un moment donné, il s'est enfui. Voilà pourquoi le rejeton, au bout d'un moment, il a pu passer la muraille. Voilà pourquoi il a pu éteindre les traits enflammés du malin qui étaient visés sur sa vie. Mais la deuxième chose qu'il a pu faire, c'est qu'il a mis sa confiance en Dieu. Genèse 40, verset 8. Juste après. Alors on peut lire le début du verset 8. Il s'agit des personnes qui sont avec lui dans la prison, qui ont tous les deux un songe. Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Et quand on réalise le contexte dans lequel c'est cette phrase, cette question, mais qui est plus une affirmation qu'une question, elle est dite. Est-ce que Joseph, il n'aurait pas pu justement se tourner vers Dieu et dire, « Seigneur, explique-moi pourquoi les choses se passent ainsi. J'ai refusé de coucher avec la femme de mon maître, et le résultat, c'est que j'ai été faussement accusé, et en plus, on m'a mis en prison pour un crime que je n'ai pas commis. » Et pourtant, Joseph, il est là, et il dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» On sent que dans cette question, il y a une confiance profonde dans le Seigneur. On sent que dans cette question, ça nous révèle l'état du cœur de Joseph, qu'il n'est pas plein d'amertume, il n'est pas plein d'un fiel amer, il est dans la confiance, il est dans la foi. Et je me souviens que pour éteindre les traits enflammés du malin, dans Éphésiens, il nous est dit qu'il faut prendre, par-dessus tout le reste, il faut prendre le bouclier de la foi. Cette confiance en Dieu qui fait que même si on m'attaque, même si on me fait du mal, même si c'est dur, même si la muraille elle est haute et il y a son ombre qui est sur moi, j'ai confiance en Dieu. Et tous les traits enflammés du malin ne m'atteindront pas parce que je lui fais confiance. Voilà un autre secret qui fait que Joseph peut continuer à avoir la présence de Dieu dans sa vie. N'est-ce pas à lui qu'appartiennent les explications? Est-ce que j'ai le droit de me tenir devant Dieu et de dire « Seigneur, explique-moi tout. Seigneur, je comprends pas ça, mais explique-moi tout. » Et Joseph, quand on regarde à sa vie, on réalise que quelques années après, il a compris. Il n'avait pas besoin qu'on lui explique, c'était tellement évident. Il a compris que c'était le plan de Dieu. Et déjà à ce moment-là, alors qu'il ne voyait pas le bout du tunnel, en tout cas, il savait que c'était le plan de Dieu pour sa vie. Il savait que le petit rejeton qu'il était, il n'avait rien à craindre face à la muraille. Parce que le seul moyen de franchir la muraille, c'était de grandir, de puiser ses forces dans l'eau du ruisseau qui représente la présence de Dieu. Il puisait ses forces dans la confiance en Dieu qu'il avait, la confiance qu'il avait mise dans le Seigneur. Troisième chose. C'est Genèse 41, 37. Il y a toutes sortes de choses qui se sont déroulées entre-temps. Il a demandé, et regardez ce qui est intéressant quand même, c'est que même s'il avait cette confiance en Dieu, il n'a pas gardé les bras ballants en attendant que tout se déroule normalement. Il a quand même saisi l'occasion de parler de son cas à l'échanson qui allait être rétabli dans sa fonction. Il n'a pas attendu tranquillement que Dieu fasse tout le travail. Il a quand même mis sa confiance, mais il a saisi l'occasion. L'occasion s'est présentée, il a agi. Il a dit, bon, mais quand tu seras rétabli, ne m'oublie pas, parle de moi. Bon, malheureusement, ça a mis un peu de temps. Et il a dit même qu'il a fallu qu'il attende 2 ans parce que les chansons, il avait oublié. Mais au moment où Dieu avait déterminé que c'était le temps, que l'épreuve de Joseph, elle était finie, à ce moment-là, ce qu'il avait fait avant, ça a porté son fruit. Et s'il ne l'avait pas fait, peut-être que les chansons, il n'aurait pas pensé à lui du tout. Vous voyez comme quoi, des fois, on a cette confiance en Dieu, mais certains ont une espèce de foi aveugle en disant, « Oh, ben, de toute façon, je ne fais rien, c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu, il est tout puissant, c'est lui qui travaille. » Non, Joseph, il a mis sa confiance en Dieu, malgré les circonstances difficiles, mais il a saisi l'occasion favorable. Et dans Genèse 41, verset 37, une fois que les chansons a parlé à Pharaon de lui, et il lui dit, mais je connais un homme qui explique les songes, fais-le venir. Alors là, Joseph est devant Pharaon, et il lui explique tout le songe que Pharaon a eu. Il lui explique qu'il va y avoir 7 années de famine, 7 années d'abord d'abondance et de haute récolte, et après 7 années de famine. Et verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Voilà le témoignage qui transparaît de Joseph quand il est admis dans la présence de Pharaon. Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ? C'est un païen même idolâtre, parce qu'à l'époque les Égyptiens ils avaient toutes sortes d'idoles, païen idolâtre, qui dit cette phrase énorme, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ? Le fait que Joseph était rempli de l'Esprit de Dieu, c'était quelque chose presque visible. Et avec tout ce que ça implique, il avait en lui l'Esprit de Dieu, donc Dieu lui a donné la connaissance, il est intelligent et sage, c'est les paroles qu'on vient de lire, et même il va le surnommer d'un nom que je préfère pas prononcer, parce que c'est en égyptien, et je parle pas égyptien, mais ça veut dire ça, c'est au verset 45 que vous le trouverez, ça veut dire celui qui découvre les choses cachées. Et on comprend bien que c'est pas Joseph lui-même qui découvre les choses cachées, mais c'est parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est l'Esprit de Dieu qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, qui est capable de révéler ces choses à Joseph. En tout cas, ce que je vois, c'est que Joseph, malgré toutes les épreuves qu'il a endurées, malgré tout le passé incroyable qu'il a vécu, il a toujours gardé sa communion. Il a conservé et il a chéri la communion avec Dieu. Il a fait en sorte que aucune des épreuves, aucun des traits et des flèches empoisonnées du mal ne porte atteinte à sa communion. Il a toujours fait son effort pour que l'Éternel soit avec lui. C'est ça le secret de Joseph. Et on voit par la suite qu'il a été béni, qu'il a été, il est devenu premier ministre, il a été juste en dessous de Pharaon, il avait tous les pouvoirs en Égypte, il avait une maison magnifique, il a carrément changé de vie. Et regardez ce qu'il dit au verset 51 du même chapitre. Il a 2 enfants. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Malgré tous les traits enflammés de la haine, la jalousie, le complot, la trahison, le mensonge et même l'oubli, Joseph, il ne s'est pas appuyé sur son passé. Il n'a pas considéré son passé, mais il a toujours regardé à une chose qui demeure éternellement, c'est-à-dire Dieu. Il a toujours mis sa confiance en Dieu. Il s'est toujours souvenu. Ça ne veut pas dire qu'il a tout oublié. Il s'est toujours souvenu que Dieu lui avait fait des promesses dans un songe. Et Dieu lui avait parlé dans un songe. Il s'est appuyé sur ses promesses. Mais tout ce qui concerne le mal, tout ce qui concerne les épreuves, les difficultés qu'il a dû endurer, les unes après les autres, de pire en pire, il n'a pas considéré ces choses-là. Il a toujours considéré le Seigneur au travers de ces choses-là. Et ce qui est remarquable, c'est que quand Joseph a connu la haine, lui, il a choisi d'aimer. Parce que quand on voit à la fin qu'il retrouve ses frères, On voit qu'il ne les a pas condamnés, il les a pas condamnés à mort ou il les a pas mis en prison. Quand il les a retrouvés, il a été saisi d'émotion et il les a embrassés, il les a pris dans ses bras. Les frères qu'il avait vendus, les frères qu'il avait mis en esclavage. Ça nous prouve que face à la haine, Joseph, il a choisi d'aimer. Quand ses frères l'ont envié, lui, il n'a pas voulu avoir ce comportement d'envier quoi que ce soit. Et du coup, quand la femme de Potiphar est arrivée, il a dit non. Il a refusé de convoiter. Quand il a été trahi par les siens, lui, il est resté fidèle. Quand il a été vendu comme esclave, ça n'a pas empêché qu'il règne dans la vie. Même s'il était au fond de sa prison, dans le cachot le plus obscur, il était en train de régner et Dieu le reconsidérait comme un vainqueur. Parce qu'il avait choisi de placer sa confiance en lui. Il avait choisi d'avoir la crainte. Quand on l'a faussement accusé, il était approuvé par Dieu. Quand on l'a condamné injustement, eh bien, il a choisi de marcher dans la vérité. Quand on l'a oublié, lui n'a pas oublié les promesses que Dieu lui avait faites. Et une autre chose encore, au verset 51, mais la suite, il a eu un autre fils, il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Joseph, qui était le rebut de ses frères, celui dont personne ne voulait, il est devenu le moyen de salut pour ses frères. Parce que quand ils ont eu faim, ils sont allés en Égypte. Et quand ils sont allés en Égypte, ils ont trouvé qui ? Joseph. Même s'ils ne l'ont pas reconnu au premier coup, Joseph, lui, en tout cas, il a pu les bénir, il a pu leur apporter toute la nourriture dont ils avaient besoin. Et les songes qu'il avait faits, les paroles, les promesses que Dieu lui avait données dans son enfance, elles ont ressurgi à ce moment-là et elles se sont accomplies. Ses frères, quand ils ont vu Joseph, sans le reconnaître, ils se sont prosternés devant lui. Et il ne savait même pas, et Joseph, quand il s'en est rendu compte, j'imagine les cris de louange qu'il a dû faire dans son cœur. J'imagine comment il a pu dire, Seigneur, j'ai vu que tu es fidèle. J'ai vu que malgré les difficultés, malgré la muraille qui était là, malgré la parole, la promesse que tu m'avais faite et qui pendant longtemps, elle semblait ne pas s'accomplir. J'ai vu que malgré tout ça, en gardant la confiance en toi, en toujours recherchant ta présence, eh bien, le rejeton que j'étais, il a pu devenir un arbre. Et quand cet arbre il a grandi, eh bien, il a pu facilement traverser la muraille. Parce qu'il était au-delà de la muraille. La muraille, c'était à côté, c'était un petit caillou. Parce qu'il avait mis sa confiance. Et quelle image ça nous donne à nous, que face à toutes les murailles que nous pouvons, auxquelles nous sommes confrontés encore aujourd'hui, nous pouvons... Et le seul moyen que nous pouvons réussir à franchir cette muraille, c'est de grandir dans la présence de Dieu. C'est de toujours croître, toujours tirer profit des bénédictions. Il est question des bénédictions d'en haut, des bénédictions d'en bas. C'est question de la pluie qui tombe. Mais la pluie qui tombe, je regardais cette pensée toute simple. Et c'est scientifiquement prouvé que la pluie, les arbres ne l'absorbent pas, la pluie. La pluie... Elle n'est pas absorbée directement par l'arbre. Par contre, sur l'arbre, la pluie, elle ruisselle pour aller se mettre dans les nappes phréatiques. Et c'est dans les nappes phréatiques, grâce à ses racines, que l'arbre arrive à puiser à toutes ces choses. Mais s'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas non plus les eaux d'en bas. Il n'y a pas non plus les nappes phréatiques et on ne peut pas refaire le plein. Et on a eu assez de pluie pour savoir qu'il faut de temps en temps qu'il pleuve pour que le plein se refasse. Mais combien c'est important que malgré les difficultés, malgré les murailles qui sont là, malgré les personnes qui nous envoient des traits enflammés, nous puissions ne retenir qu'une chose, avoir un seul but. Notre arc ne doit être tendu que vers une seule chose, vers Dieu, vers le ciel. Non pas que nous visons Dieu, nous essayons de tuer Dieu, c'est pas ça, mais nous visons le Seigneur. Nous avons ce désir qu'il soit avec nous. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph quand il a été vendu. L'Éternel fut avec Joseph quand il est mis en prison. L'Éternel fut avec Joseph et le bénit. Est-ce que nous vous désirons avoir la bénédiction de Joseph, la même bénédiction que Joseph a eue? On voit que Joseph connaît le couronnement. Mais Joseph, à la fin de sa vie, une fois que Jacob est mort, il apporte aussi la consolation. C'est Genèse 45, verset 8. Une fois que son père est mort, les frères, ils ont la crainte. Ils croient que Joseph, il était sage parce que son père, il était encore en vie. Mais une fois que son père est en vie, il va se venger. Et regardez la parole que Joseph, il leur dit. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, Mais c'est Dieu. Quelle compréhension il a. Il m'a établi père de Pharaon, maître dans toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alors, attendez. Et oui, voilà. 50. Alors, Genèse, chapitre 50, verset 19. « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Alors qu'il a été vendu comme un esclave, trahi, ils ont même eu des projets de le tuer, Joseph, il console ses frères. Ça, c'est ce qui se passe quand on a l'Éternel qui est avec nous. Le passé n'importe plus. Tout ce qui s'est passé est effacé. Ce qui compte, c'est notre attitude face à nos frères, à nos sœurs qui sont là. Même s'ils nous ont blessés, même s'ils nous ont fait du mal, c'est pas grave. Je veux leur apporter la consolation. Mais celui qui est fatigué, je veux l'encourager. Celui qui est faible, je veux le fortifier. On va aller prier ensemble. On va jeûner ensemble s'il faut. Mais je vais être là pour lui. Ça, c'est l'exemple que nous donne Joseph. Et il y a quelque chose qui est fabuleux dans cette histoire. C'est que quand on analyse en détail la vie de Joseph, on se rend compte que c'est une image merveilleuse de la vie de Jésus. Parce que Jésus, est-ce qu'il n'a pas été haï? Est-ce qu'il n'a pas été menacé de mort? Et ça a été même plus loin parce qu'ils l'ont tué carrément. Mais est-ce qu'on n'a pas comploté pour le tuer? Est-ce qu'il n'a pas été trahi? Est-ce qu'il n'a pas été vendu aussi contre une somme d'argent? Toutes ces choses que Joseph a vécues, Jésus les a vécues aussi. La vie de Joseph nous parle de Jésus. Et pour certains cet après-midi, la muraille qui est devant vous, ce n'est pas seulement une épreuve. La muraille qui est devant vous, c'est le péché. Le péché qui met une séparation entre vous et Dieu. Cet après-midi, vous êtes comme un rejeton, comme une petite pousse face à la muraille du péché qui vous sépare de la présence de Dieu et qui vous empêche d'accéder à sa bénédiction. Et Dieu vous dit que le seul moyen de pouvoir traverser cette muraille, vous n'y arriverez jamais par vous-même. Le seul moyen, c'est d'avoir Dieu avec vous. Et vous savez comment a été surnommé Jésus? Vous le savez? Emmanuel, Dieu avec nous. Au travers de Jésus, nous pouvons traverser la muraille. Parce que lui a eu cette vie innocente, lui a eu parfaitement cette communion avec Dieu, lui a eu parfaitement la crainte de Dieu. Il nous a dit dans un passage que je vais vous lire rapidement, Isaïe chapitre 11. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Voilà qui est Jésus. Ça, c'est encore une prophétie sur Jésus. Et on voit que Jésus est comparé aussi à un rejeton. Jésus est comparé à un petit rameau qui sort d'un tronc. Mais Jésus a l'esprit de Dieu en lui. Et Jésus, il a choisi de venir sans avoir cet éclat, cette apparence. Regardez encore Isaïe 53. On connaît bien ce passage. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà de la quelle manière le Fils de Dieu a choisi de venir sur la terre, comme un rejeton. Mais parce qu'il avait cette communion avec le Seigneur, il est devenu un arbre magnifique qui permet de détruire la puissance de la muraille. Et si quelqu'un ce soir encore est devant une muraille qu'est le péché, il est devant quelque chose, une incapacité à pouvoir traverser cette muraille, il est devant une incapacité de sa chair, et il est là et il se dit « mais comment vais-je faire pour combattre toutes ces pulsions qui sont en moi ?» Le seul moyen de combattre cela, c'est d'abandonner ta vie à Jésus-Christ, parce que lui, il a déjà remporté la victoire. Lui, il a déjà fait le travail. Lui, il a déjà brisé la muraille. Mais toi, tu es encore dans cette réalité où la muraille, elle est là. Le seul moyen que tu en sois délivré, c'est que tu attaches ta vie à Jésus-Christ. Que la sève, la vie de Jésus coule en toi et que tu deviennes cet arbre qui va traverser la muraille aussi. Pas par tes forces, pas par ta richesse, pas par tes qualités, mais par la puissance de Jésus, qui lui a déjà fait. À la croix, Jésus s'est donné, a donné sa vie, il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est capable de nous sauver du péché. Voilà la bénédiction de Jésus. Il y a la bénédiction que Joseph a reçue, mais il y a la bénédiction que Jésus aussi peut apporter cet après-midi. Et j'espère que vous êtes avec moi pour dire que, Seigneur, je désire être béni. Je désire que tu poses ta main sur moi et tu me bénisses. Que je désire que de grandir, que la muraille qui est devant moi, l'épreuve qui dure, la maladie qui est là, elle s'en aille. Et je désire que ta paix, ta joie, ton amour, le pardon de mes péchés, si j'ai pas fait la paix avec toi, la paix avec toi justement, la réconciliation, toutes ces choses sont mon partage, parce que j'aurais mis ma confiance en toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Éternel, merci, parce que tu nous montres dans ta parole que tu es un Dieu qui bénit. Tu nous montres dans ta parole que tu ne désires pas nous laisser tels que nous sommes, face à notre péché ou face à notre épreuve. Face à la muraille qui est là devant nous, Seigneur, tu es le Dieu qui nous offre les bénédictions d'en haut, les bénédictions d'en bas, Seigneur. Et nous voulons, encore cet après-midi, te demander justement de bénir nos cœurs. Tu connais les personnes qui sont dans ce lieu. Tu connais chacun des cœurs, Seigneur. Tu connais les maladies, tu connais les épreuves, les situations difficiles. Tu connais ces contextes qui font que les personnes ont mis cette étiquette impossible dessus. Tu connais ces personnes qui ont choisi de croire que c'était fini, qu'ils n'avaient plus d'espoir, parce qu'ils ont essayé de pousser par eux-mêmes, ils n'ont pas essayé de puiser en toi. Seigneur, tu es le seul capable de nous faire grandir, de nous donner la force. Permets que cet après-midi, notre arc puisse être ferme en visant, toujours visant ta présence, toujours visant ton amour, toujours visant ta bonté, Seigneur. Oui, nous voulons dans ces instants te demander de toucher les cœurs, de toucher les âmes de ceux qui viennent vers toi. Tu vois, ceux qui sont confrontés à un péché en particulier, Seigneur, que cet après-midi, ils puissent trouver en toi la force de combattre ce péché parce que tu l'as déjà vaincu, tu as déjà remporté la victoire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous qui te connaissons déjà, à toujours garder la communion avec toi, à toujours avoir la foi en toi, toujours, Seigneur, garder notre confiance en toi, toujours, Seigneur, veiller pour que notre communion avec toi ne s'en aille pas, mais que nous puissions toujours dire que l'Éternel est avec nous. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Nous voulons te bénir cet après-midi, parce que tu es un Dieu qui bénit. Amen.